Philippe Urbain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant local FSU au conseil départemental de l'Hérault. Vous allez parler aujourd'hui, en tout cas, des travailleurs sociaux, le collectif des assistants familiaux qui accueille des enfants à domicile. Avec le confinement, c'est quelque chose qui est encore plus compliqué qu'à l'accoutumée, puisque du coup, ces professionnels-là travaille 24 heures sur 24, c'est ça, depuis le début du confinement. Quelle est la situation exacte?
Ben en fait, les assistants familiaux, hein, qu'on appelle aussi les familles d'accueil, ben, je dirais, ont été confrontés, comme je dirais, toute famille, tout parent, hein, à la fermeture des établissements scolaires. Hein, donc voilà, donc ils se sont retrouvés effectivement à assurer la prise en charge des enfants qui leur sont confiés par le département, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme les parents, hein, donc de devoir assurer une fonction pédagogique en lien avec les écoles. Donc ça, c'était un premier point. Après, le conseil départemental, hein, plus précisément la direction enfance-famille, a pris une décision bah, qui s'imposait hein, du fait du confinement relatif au droit de visite et d'hébergement des enfants dans leur famille. Hein, à savoir que ces enfants qui sont je dirais en majorité des cas confiés sur décision du juge des enfants, bah, je dirais, bénéficient de visites, de week-ends, parfois de petits séjours dans leur famille naturelle. Hein. Et pour les raisons du confinement, bah, la direction enfance-famille a dû suspendre tous ses droits de visite et d'hébergement, de visites médiatisées, donc dispositions qui sont toujours en vigueur.
C'est une double peine du coup pour ces enfants. Ils sont confinés et en plus ils ne peuvent pas profiter de leurs parents.
C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est difficile à vivre pour les enfants, c'est difficile à vivre pour les parents, et effectivement, c'est parfois compliqué à gérer pour les assistants familiaux qui, de fait, se retrouvent, bah, j'irais, à devoir gérer des relations avec les parents qui ne sont pas habituellement amenés à gérer. Donc, oui, on pourrait considérer que c'est la double peine. Maintenant, je pense que c'est lié à des dispositions, bah, comme je disais, liées au confinement, hein, des dispositions sanitaires. Je ne pense pas que ce soit spécifique au conseil départemental de l'Hérault, hein. Ce sont des dispositions, à mon avis, qui sont nationales, dans la mesure où, effectivement, dans le cas de parents séparés, c'est quelque chose qui se gère quand même au sein de la famille. Là, on est quand même sur des dispositions qui sont extra-familiales du fait de l'accueil de l'enfant.
Concrètement, du coup, la relation avec les parents pendant cette période de confinement, les assistants familiaux la gèrent, comment?
Dans les situations, je dirais, bon, qui sont quand même majoritaires, hein, où il y a de relations satisfaisantes avec les parents des enfants confiés. On a donc des relations qui se font essentiellement par téléphone, hein. L'envoi de photos, de vidéos. On a aussi ce qui ne se faisait pas avant l'autorisation d'effectuer des visios, hein, donc des échanges en visio. Je dirais, il y a eu effectivement la volonté de pouvoir compenser, hein, l'absence de visite et de relations directes par des moyens, je dirais, virtuels. Maintenant, bon, on est tous confrontés à cette situation, hein, d'une manière ou d'une autre, et on sait que ça ne peut pas remplacer et ça ne remplace pas les relations, je dirais, physiques, je dirais, directes.
Comment ça se passe les relations avec l'éducation nationale pour ces enfants-là et les assistants familiaux qui doivent à la fois assurer l'école à la maison pour leurs enfants et puis pour les enfants qu'ils hébergent?
Alors, chez les assistants familiaux, on a autant de cas de figure de composition familiale que dans la société française, hein. Donc, on a des couples, des assistants familiaux en couple, avec des enfants. On a des assistants familiaux en couple qui sont plus âgés et qui n'ont plus d'enfants à charge. On a aussi des familles monoparentales, hein. Donc, voilà. Donc, il y a une variété de profils. Donc on a une variété forcément de situations. Au niveau éducation nationale, ben, je dirais que les assistants familiaux, du fait du suivi et de la prise en charge des enfants, sont en lien, je dirais, avec les établissements scolaires, hein, voire même parfois en lien plus étroit, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'enfants accueillis qui présentent des problématiques spécifiques. Après, ce qui se posait, c'est qu'effectivement, c'était d'assurer la continuité pédagogique avec tout ce que ça implique en n'étant pas enseignant de formation et de, j'irais, de disponibilité quand on a des enfants, j'irais, de niveaux différents, hein, des enfants de confiés de niveaux différents. Mais bon, ça a été effectivement le problème de tout à chacun des parents, en quelque sorte, hein, de devoir assurer ça. La différence, c'est que les assistants familiaux le faisaient, elles, dans un cadre professionnel. C'était du coup, bon, j'irais, considéré pleinement comme un travail, j'irais, supplémentaire à effectuer, voilà, dans la mesure où ce sont des professionnels de l'accueil familial. Ensuite, bon, voilà, j'irais, tout à chacun n'est pas égal quant à son équipement informatique, hein. En fonction de ses, je dirais, de ses capacités d'utilisation, de sa disponibilité, de sa façon, enfin voilà, d'être, je dirais, à l'aise. Et effectivement, on s'est retrouvé avec des familles d'accueil qui avaient un équipement, donc qui étaient confrontées effectivement à la gestion de cet équipement. Ça veut dire de devoir effectuer, entre guillemets, des plannings, hein, d'utilisation de l'ordi, de la tablette, enfin voilà, parce qu'il y avait effectivement, par exemple, moi j'ai des familles où deux enfants accueillis plus deux enfants du couple, effectivement, tous les quatre scolarisés avec un seul ordinateur et une tablette, c'était pas forcément évident. Donc on s'est retrouvé aussi avec des assistants familiaux, bon, qui n'avaient qu'une tablette, par exemple, parce qu'ils n'en avaient pas une utilité d'avoir un équipement informatique plus conséquent. Et aussi, bon, je dirais là après des surcoûts liés, comme on a un peu appelé, les consommables, parce que les consommables et la papeterie, hein, donc un surcoût financier de ce côté-là.
Vous aviez demandé, vous d'ailleurs, la revalorisation de 60 euros mensuels par enfant sur la période du confinement, cette fameuse prime d'entretien, c'est ça? Une revalorisation de ce montant-là?
Il y a le contexte de la crise sanitaire et il y a la situation, je dirais, de la profession, hein, des assistants familiales. Alors, je me permettrai peut-être de faire un petit retour en arrière, hein, dans le sens où, bon, même un grand retour, parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait déjà eu avec le conseil départemental des choses qui avaient été mises en place au niveau des assistants familiaux, qui avaient permis notamment une revalorisation salariale. Bon, je dirais qui était assez satisfaisante à l'époque, bon, qui n'a pas évolué par la suite, hein, mais bon, qui reste d'un niveau correct, dirons-nous. D'ailleurs, les revendications des assistants familiaux ne portent pas strictement sur des questions salariales. Elles portent sur des questions de statut et des questions de, je dirais, de besoins liés à l'enfant et les spécificités d'enfants accueillis. Donc là-dessus, en 2019, bon, sur un certain nombre de questions et face aux difficultés d'entamer dialogue avec, je dirais, les directions concernées, il y a eu effectivement un collectif qui s'est créé, regroupant l'ADAMEF, qui est une association locale d'assistants familiaux, et deux organisations syndicales, la FSU et SUD. Donc ce collectif a monté un mouvement pour être entendu, hein, le 10 décembre dernier à Béziers, lors d'une session parlementaire, et à l'occasion, nous avons été reçus par Monsieur Mesquida, président du conseil départemental, qui a pris des engagements par rapport au fait de favoriser l'accueil familial, de prendre des mesures, hein, et il semblait effectivement avoir pris la mesure et la nécessité d'engager des actions fortes par rapport à cette profession, hein, sachant que les assistants familiaux sont des salariés, alors pas fonctionnaires, hein, mais des salariés du conseil départemental. C'est valable pour toute la France. Voilà, donc des engagements pris, un travail qui commence à partir du mois de janvier. Effectivement, bah, la crise sanitaire qui pointe son nez là au mois de mars, occasionnant un certain nombre de difficultés. Et effectivement, bon, je dirais, s'est installée une forme d'incompréhension parce que il y avait effectivement un engagement sur la revalorisation, le rattrapage de l'allocation d'entretien, hein, qui est une allocation qui est spécifiquement liée aux besoins de l'enfant. C'est pas du salaire versé à l'assistant familial, hein, donc allocation qui était de 13,55 € et qui ne couvrait pas, je dirais, les besoins pleins et entiers des enfants. Donc 13,55 € par jour et par enfant accueilli. Donc il y avait une problématique à ce niveau-là. Il y avait d'autres problématiques, je dirais, qui sont plus d'ordre statutaire et juridique, dirons-nous, hein, en termes de responsabilité juridique. Donc voilà, il y a eu, bon, je dirais, une crispation avec l'exécutif départemental autour de ça. Le président avait pris l'engagement de revaloriser cette allocation d'entretien avec un effet rétroactif au 1er janvier. Et effectivement, les collègues assistants familiaux qui communiquent, hein, et puis on a, enfin, je dirais, il y a des assistants familiaux de l'Aude qui travaillent pour l'Hérault, inversement, avec le Gard également. Donc, c'est pas complètement, je dirais, refermé sur le département. Donc, il y a les assistants familiaux communiquent entre eux, nous aussi d'ailleurs. Et effectivement, quand, je dirais, il y a eu l'information comme quoi, dans l'Aude, le président du conseil départemental prenait des dispositions dès le premier jour du confinement sur une revalorisation de l'allocation d'entretien, donc de 60 € par mois et par enfant, et d'une prime en fait de 200 € par mois. Effectivement, par rapport aux propositions de l'exécutif départemental de l'Hérault, les gens se sont dit, mais pourquoi comme ça dans l'Aude, pourquoi pas nous pareil? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des différences de cet ordre-là? D'où le fait que l'Assemblée départementale se réunissant vendredi dernier, 24, on a effectivement publié ce communiqué de presse en essayant de rappeler, je dirais, l'origine des revendications et qu'il ne fallait pas mêler les engagements qui avaient été pris avant la crise sanitaire avec des dispositions spécifiques à la crise sanitaire. Alors, je dirais aujourd'hui, le verre est à moitié plein ou à moitié vide, hein, parce que bon, effectivement, l'Assemblée départementale, sur proposition du président, a voté un rattrapage de l'allocation d'entretien, donc avec un montant à 16 € avec un effet rétroactif au 1er janvier, hein. Bon, ce qui est, j'irais, bien. Et effectivement, une prime de 200 € mensuels pendant 3 mois, donc ce qui est aussi une reconnaissance du surcroît de travail. Mais dont il faudra voir aussi si effectivement c'est une prime, je dirais, soumise à imposition et à, je dirais, charge patronale et sociale, dans la mesure où on pourrait dire que c'est une prime de 600 €. Si c'est une prime non imposable et non soumise à charge, ce sera 600 €. Si ce n'était pas le cas, elle sera amputée de 30% quasiment. Voilà. Je dirais, il y a une réflexion à mener au niveau national sur le statut des assistants familiaux.
Il y a encore beaucoup de représentations du coup de ce métier-là, puisque un assistant familial, c'est pas forcément un parent à domicile et qui du coup peut garder d'autres enfants. Ce n'est pas non plus un éducateur spécialisé forcément.
Tout à fait. Et ce n'est pas une nounou, hein, parce que c'est vrai que. Il y a encore cette représentation des nourrices, hein, donc je pense que c'est là où effectivement il y a des distorsions dans un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que ce sont des gens qui travaillent chez eux, à domicile, bon, avec leurs propres biens, leurs propres véhicules. Tout à l'heure on parlait d'informatique, et ben oui, c'est leurs propres outils, hein, ils sont pas dotés, ils sont indemnisés pour l'utilisation de leurs véhicules, hein, mais ils sont pas dotés en informatique. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a effectivement des choses à faire sur le plan local, hein, et il y a aussi des choses à faire sur le plan national au niveau du statut. Donc, il y a effectivement, avec Monsieur Taquet, bon, des choses qui se passent, hein, bon, et qui sont en lien aussi avec les préoccupations sur tout ce qui est sur les questions sur la protection de l'enfance. Mais parce que les assistants familiaux, de fait, hein, sont un chaînon essentiel dans la politique de protection de l'enfance. Si il n'y avait pas l'accueil familial, ben on serait effectivement dans des conditions, j'irais, assez tragiques. On n'est pas sur de la revendication salariale de fond. On est sur une réflexion, une demande de réflexion. Alors, je vais revenir sur le plan local. On a une population d'environ 700 assistants familiaux qui a diminué. Moi, ça fait 20 ans que je suis au département. je constate, et de toute façon les chiffres sont là, une diminution du nombre d'assistants familiaux. Donc un problème de recrutement, un problème d'attractivité de la profession par rapport à un certain nombre d'aspects, mais aussi par rapport, à la difficulté, aux difficultés d'accueillir des enfants, bon, je dirais dans le cadre d'un placement judiciaire, mais aussi des enfants qui ont parfois des handicaps, qui ont parfois des troubles du comportement. Il faut pouvoir savoir travailler avec la pédopsychiatrie, avec l'éducation spécialisée, avec les établissements tels que des IME, des ITEP, etc. C'est pas de la garde d'enfants, je dirais, en permanence, hein. Donc, on est bien sur ces problématiques-là. Et une population qui vieillit, hein, parce qu'effectivement, bah, la moyenne d'âge a maintenant allègrement dépassé les 50 ans. Donc avec effectivement des professionnels, bah, je dirais, qui vont partir dans les années qui viennent de plus en plus à la retraite et qu'il faudra renouveler. Et je pense que là, Monsieur Mesquida avait quand même entendu un aspect, c'est qu'il sait très bien que le placement familial est largement moins coûteux pour la collectivité que le placement collectif, même si effectivement ils répondent chacun à des spécificités, je dirais, particulières. Mais c'est vrai que la question de l'accueil familial est un vrai problème dans le cadre de la politique de protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance.
Il n'y a pas que des mauvaises surprises.
Il n'y a pas que des mauvaises surprises. Je pense qu'il faut être très attentif. Il faudra être très vigilant, hein, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. J'avais dit qu'on pouvait craindre une vague. Bon, bah, c'était peut-être plus par rapport, je dirais, au signalement, hein, mais sur cet aspect-là. Donc, on sort un petit peu là, je dirais, des enfants confiés. Mais le dispositif de protection de l'enfance qui était déjà fragilisé dans l'Hérault, mais aussi dans toute la France, mérite vraiment qu'on s'arrête, hein, sur les difficultés qui sont posées, les manques de places d'accueil, la péréquation aussi des places d'accueil. C'est surtout un gros problème à ce niveau-là, et c'est là où on rejoint l'accueil familial.
Du coup, vous êtes plus soucieux de l'après-Covid-19, puisque s'il y a eu des signalements liés aux violences intrafamiliales pendant le confinement, ça veut dire qu'à terme, ce sera autant d'enfants qui seront éventuellement placés en famille d'accueil.
J'espère que non. Hein, j'espère qu'on pourra les traiter différemment, hein, parce que le but, effectivement, c'est pas effectivement de placer les enfants en famille d'accueil ou en maison d'enfants. Hein. Le but, c'est de travailler avec les parents pour trouver des solutions et d'avancer dans les difficultés rencontrées. Le problème qui s'est posé au niveau des signalements, des informations préoccupantes du 119, hein, c'est que, bon, avec la fermeture des écoles et des établissements, il faut savoir que l'éducation nationale est un peu en première ligne pour les repérages d'enfants en danger, hein, et que effectivement, ça pouvait poser un certain nombre de difficultés. Donc, ça sera à analyser après, hein, un peu dans la façon dont les choses ont pu se passer, mais les violences intrafamiliales existent et effectivement, comme on le voit, hein, au niveau des médias, des informations qui peuvent être faites à ce sujet-là, les canaux, de vigilance habituels, notamment celui de l'éducation nationale, ne fonctionnent plus. Hein. Donc effectivement, ça peut amener, dans les semaines qui viennent, peut-être à découvrir des situations un petit peu plus dramatiques qu'on pouvait le penser. On peut faire le parallèle avec l'hôpital, hein, quand l'hôpital a dit qu'il ne voyait plus arriver des personnes qui habituellement présentaient des pathologies et qui ont disparu un peu du paysage. C'est un peu le même processus en quelque sorte.
Sauf qu'en milieu hospitalier, on a pu estimer le nombre de personnes qui ont renoncé aux soins, alors que là, l'estimation reste difficile. Déjà, au niveau national, on n'a pas de données chiffrées. Au niveau du département, hein, est-ce que ça a été évalué, l'augmentation des violences intrafamiliales ou de la sortie des radars des enfants qui étaient en fragilité?
Alors, ce que je peux dire de façon assez fiable, c'est que 15 jours après le début du confinement, on n'avait pas d'augmentation, significative ce qui est un peu logique par rapport à ce que je disais, par rapport à l'éducation nationale. Le problème qui se passe maintenant, c'est qu'on a demandé effectivement un état des lieux, hein, et dans cet état des lieux qu'on a demandé la semaine dernière au niveau de la direction de la solidarité, c'était effectivement d'avoir des éléments, je dirais globaux au niveau du département sur les signalements. Donc à la fois le volume de signalement et effectivement ce qui était après traité en information préoccupante. Bon, ça, on n'a pas, moi, j'ai pas les chiffres, donc je me prononcerai pas là-dessus. Sauf que, comme je disais, on peut penser que, effectivement, nombre de situations existent et ne sont pas, je dirais, entre guillemets, signalées.
Le signalement aussi est passé au niveau national avec toutes ces plateformes qui peut-être empêchent le lien plus local des aides sociales à l'enfance, par exemple.
Alors, je suis pas spécialiste hein, du dispositif au niveau du 119. Bon, voilà, moi, professionnellement, moi, je traite les signalements, les informations préoccupantes. Donc, voilà, c'est ça mon travail dans cette mission-là. C'est ça mon travail. Hein, donc. Après, il y a effectivement le 119 hein, qui permet bon, tout à chacun d'appeler. Après, il faut savoir qu'il y a des circuits, notamment avec l'éducation nationale. Quand l'éducation nationale signale une situation qui les inquiète, hein, elle ne passe pas par le 119.
Oui, mais au niveau du voisinage, par exemple, comment faire pour un voisin qui entend des bruits suspects à travers la cloison de son appartement? Quel recours possible? La responsabilité engagée? Comment savoir si on fait bien ou pas les choses, dans l'intérêt de l'enfant d'ailleurs?
Oui, alors c'est très compliqué, je dirais c'est un devoir citoyen. Ça peut ressembler à de la délation, hein, mais ça n'en est pas, même si, voilà... je dirais, on peut effectivement se poser des questions, hein, voilà, sur. Pour nous, c'est un dispositif qui maintenant existe depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves, hein, en matière de protection de l'enfance. Bon, qui, comme tout dispositif, a des défauts, hein, mais qui globalement remplit une fonction qui est quand même importante. Voilà. Alors, quand on est, je dirais, voilà, quand on est un voisin que on entend, on constate, etc. Bah, effectivement, il y a deux canaux. Il y a le 119, hein, où on atterrit sur une plateforme qui va réorienter vers, en fonction du département, vers le département. Ou alors, il y a effectivement un appel direct aux services sociaux. En temps normal, c'est géré, bah, si vous appelez un service social, que vous dites que vous appelez pour des suspicions d'enfants en danger, effectivement, on va prendre les éléments que vous donnez. Voilà, et on va vous demander aussi, en tant que particulier, si vous souhaitez rester anonyme ou pas. Là, actuellement, depuis le début du confinement, bah, les services du département au niveau de la solidarité départementale, hein, donc les maisons, les MDS et les services territoriaux de la solidarité, se sont réorganisés pour assurer une continuité de service, donc avec des numéros spécifiques, des personnels en présentiel, hein, de façon régulière. Et bah, si vous appelez effectivement le service social, bah, vous allez effectivement tomber sur l'équipe de permanence.
Est-ce qu'on peut avoir sous sa responsabilité un enfant du berceau à la veille de ses 18 ans?
Bah, on peut même, je dirais même plus, on peut avoir en accueil un enfant effectivement de ses quelques jours ou quelques semaines de vie jusqu'à ses 21 ans, parce que le département, bon, et là effectivement le département de l'Hérault assure de façon systématique l'accompagnement jusqu'à 21 ans pour tout mineur qui lui a été confié. Donc ça veut dire qu'effectivement un enfant peut passer sa vie jusqu'à 21 ans dans une famille d'accueil. Alors c'est des cas, ça existe, hein, c'est des cas particuliers. Bon voilà, donc ça peut exister. Maintenant, il faut pas oublier quand même que l'objectif, c'est quand même de pouvoir travailler le retour en famille entre le placement. Et effectivement, un retour en famille, il y a des dispositifs intermédiaires. Et effectivement, c'est aussi des axes de travail à avoir, d'un développement de ces dispositifs intermédiaires, hein, le service d'accueil personnalisé, je dirais l'accompagnement éducatif à domicile, enfin tout ça, enfin le placement alterné pour redonner une place aussi aux parents, hein, parce que voilà, c'est important. tout ça, ça peut contribuer effectivement au bien-être des enfants accueillis et puis à l'absence de rupture de lien avec la famille.
Alors, vous avez dit 700 assistants familiaux sur le département de l'Hérault. Il en faudrait combien de plus?
Ah ben déjà, il faudrait que soit assuré le renouvellement des départs. Il faudrait avoir des actions, je dirais, ciblées, hein, enfin à la fois, bon, je dirais, de recrutement plus général, mais aussi des actions ciblées. Par exemple, il faut savoir que sur la ville de Montpellier, il n'y a quasiment pas d'assistants familiaux. Contrairement à Béziers, où on a des assistants familiaux qui sont en ville, et on a des villages autour de Béziers, il y a un gros, je dirais, il y a beaucoup d'assistants familiaux sur le Biterrois et sur Cœur d'Hérault. À Montpellier-Ville et sur la métropole, enfin surtout à Montpellier, il y a proportionnellement très peu d'assistants familiaux, et c'est essentiellement lié à la question du logement. Donc il faudrait qu'on puisse aussi réactiver une réflexion à ce niveau-là pour peut-être favoriser que des assistants familiaux puissent s'installer à Montpellier, par exemple, pour avoir effectivement, je dirais, des possibilités plus importantes. Parce que la grosse problématique, c'est qu'on a, je dirais, souvent, hein, au niveau famille d'accueil, ben, des enfants qui sont, bon voilà, de Montpellier, je vais parler de Montpellier parce que j'y travaille, hein, donc de Montpellier, ben, c'est vrai qu'on a des enfants qui partent en famille d'accueil et qui peuvent partir, je dirais, à une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure de route, hein, du département. Bon, et c'est vrai que ça devient compliqué parce que ça devient compliqué pour les parents. Ça devient compliqué pour les familles d'accueil. Les assistants familiaux font énormément, énormément de routes, énormément de kilomètres, j'irais, liés effectivement à l'accompagnement des enfants dans le cadre des droits de visite et d'hébergement.
Merci Philippe Urbain d'avoir été le porte-voix du collectif des assistants familiaux de l'Hérault. Je rappelle que vous êtes représentant local FSU au conseil départemental de l'Hérault, éducateur dans la vraie vie. Merci.
Merci.